Politique avec David Abiker.
Esprit libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc.
Bonjour David.
Évidemment, ce week-end, il était question de ce débat qui n'a pas eu lieu, qui a tourné court, débat entre le président de la République et les agriculteurs sur le fameux ring où se succède habituellement le ring du salon de l'agriculture, où se succèdent en général des bêtes à cornes. Et ce débat avorté m'a donné l'idée de relire un texte de Philippe Muret, essayiste et romancier, spécialiste du 19e siècle, mais connu pour ses chroniques Réac et libertaire, et il avait publié une tribune en son temps sur le débat. Et il disait ceci, et je voudrais partager ça aussi avec nos auditeurs. « Il faudrait ne jamais débattre », écrivait Philippe Muret. « Le débat, comme le reste dans notre univers d'intransitivité galopante, a perdu son complément d'objet. On débat avant de se demander de quoi. L'important est de se rassembler. Le débat est devenu une manie solitaire qu'on pratique à 10, à 50, à 100, un stéréotype célibataire en même temps que grégaire. » Une façon d'être ensemble, un magma d'entreglose qui permet de se consoler sans cesse, de jamais atteindre, seul, à rien de magistral. Je ferme les guillemets, le texte est plus long. C'est du Philippe Muret dans le texte et je le soumets au philosophe Luc Ferry, puisqu'il était question de débattre à nouveau ce samedi au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous souscrivez à cette omniprésence du débat qui devient une façon d'occuper le terrain plutôt que de chercher la vérité ?
Non, je suis en désaccord total avec ce texte de Muret, qui est un texte nietzschéen. C'est une espèce de paraphrase, en fait, quasiment un plagiat d'un texte de Nietzsche que j'aime par ailleurs beaucoup, avec lequel je suis d'ailleurs en désaccord, mais que j'aime beaucoup, qui est le cas Socrate. C'est un des chapitres du Crépuscule des idoles, dans lequel Nietzsche explique que Socrate est ce qu'il y a de pire au monde, parce que Socrate passe son temps à débattre et à argumenter. Et Nietzsche ajoute cette phrase qui dit presque toute sa philosophie. D'ailleurs, il dit « Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut rien, ne vaut pas grand-chose. » Et pourquoi il dit ça? C'est très intéressant. Chez Muret, c'est ça qu'il y a derrière. Il y a l'idée que l'aristocrate, à l'opposition du démocrate, le roturier, l'aristocrate ne discute pas, il n'explique pas, il n'argumente pas, il ne démontre pas, il commande. Et pour Nietzsche, le vrai aristocrate, évidemment, c'est l'artiste. Ça peut être le militaire, mais c'est l'artiste. L'artiste pose des valeurs sans discuter. Bach pose des valeurs sans discuter. Bizet pose des valeurs sans discuter. Le démocrate roturier, comme Socrate, populaire, il dit, voilà, Socrate, c'est l'horrible peuple. Et c'est ce que pense Muret. Il est très, évidemment, très élitiste. Bon, c'est l'idée que le peuple argumente, le peuple débat, c'est la démocratie, c'est la démocratie, voilà. Et donc, moi, je suis un partisan de ce que Habermas appelle l'éthique de la discussion. Et je pense, au contraire, qu'on n'argumente pas assez. C'est ça qui me gêne le plus.
On va y revenir au débat, et notamment au débat qui n'a pas eu lieu au Salon de l'Agriculture, oui. Parce qu'il faudra qu'on en parle. Je voudrais faire une incise, parce que Philippe Muret est aussi connu pour avoir critiqué la modernité, oui, son langage, sa langue de bois, ses nouveaux mots pour qualifier tout un tas de métiers qui n'existent pas,
oui, et souvent très drôle,
des métiers virtuels. Ouais. Et je crois que ce qu'il a dans le viseur quand il évoque le débat, c'est le débat comme argument de communication, le débat pour occuper le vide, le débat pour dire on a débattu, on est des démocrates, on est des gens bien, mais en fait, il dit, il y a rien de décisif et de vital qui ne se fait par une idée, par effectivement un argument d'autorité, par le génie de l'artiste ou par le génie politique. Mais il semble dire que le débat est un artifice de communication. Et pour le coup, beaucoup de gens ont considéré que le débat proposé par le président de la République au Salon de l'Agriculture était un artifice de communication.
Oui, mais Muret confond la com et le débat, c'est pas la même chose. Donc que des débats soient ratés, que des débats soient de la com, c'est une évidence. Bon, et c'est vrai que la politique se réduit aujourd'hui à la com. Qu'est-ce qui a raté, si on veut revenir sur Terre et si on veut revenir à ce débat raté au Salon de l'Agriculture? L'idée qu'avait Emmanuel Macron, c'était de faire débattre en vérité les agriculteurs avec les écologistes. Et donc c'est pour ça qu'il avait invité les soulèvements de la Terre. Et donc dans les soulèvements de la Terre, il y a toutes sortes d'organisations, c'est pas une seule organisation. Il y avait le WWF qui était invité aussi, etc. Bon, alors après il a dit mais non, ils n'étaient pas invités. Si, ils étaient invités. D'ailleurs, les soulèvements de la Terre l'ont confirmé. Et l'idée de Macron, c'était au fond de se poser en arbitre réconciliateur entre eux pour essayer de trouver une médiation en quelque sorte entre l'écologie et l'agriculture. Bon, c'était une idée absurde parce qu'à partir du moment où on avait vu ce qui s'était passé à Sainte-Soline autour des bassines des agriculteurs, c'était totalement inimaginable qu'un débat, serein puisse avoir lieu. Donc, ne confondons pas un débat raté parce que c'est un débat de pure com avec une argumentation solide. Et je maintiens que ce qui nous manque, ce sont des débats argumentés, des débats solides. Voilà. Et d'une certaine manière, Gabriel Attal a rattrapé les choses. Son intervention hier soir était en fait assez remarquable. Elle était sereine, elle était calme, elle était argumentée. C'est ça qui nous manque. Ce qu'on essaye de faire ici, d'ailleurs chaque lundi matin, ce sont des débats argumentés. D'ailleurs, on s'oppose pas, c'est pas le problème, mais essayer de trouver de réfléchir à des sujets de fond ou à des sujets d'actualité qui peuvent d'ailleurs être des sujets de fond. Je trouve que c'est ça qui manque le plus aujourd'hui. Et c'est vrai que chez les politiques, c'est biaisé parce que les politiques se sentent, quand on organise des débats droite-gauche, bon, les politiques se sentent toujours obligés d'être absolument en désaccord avec leur interlocuteur. Donc ça tourne au pugilat et ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui nous manque, c'est la qualité de l'argumentation. Donc je pense que Philippe Muret confond deux choses. C'est le bruit médiatique de la com. Là-dessus, il a raison, évidemment. Mais on est tous d'accord. Et le débat argumenté, le débat socratique. Voilà, Socrate, c'est quand même génial. Je suis désolé. C'est Nietzsche à tort. Socrate est quand même quelqu'un d'extraordinaire. C'est lui qui invente l'éthique de la discussion. Et c'est vrai que les dialogues de Platon, c'est quand même une merveille absolue.
Fallait pas l'inviter, le soulèvement de la Terre, ben oui. Ou en tout cas, il y a eu des velléités de l'inviter. Comment, oui, d'après vous, une, oui, telle idée peut germer dans la tête d'un conseiller ou d'un président? C'est peut-être le président qui a lancé cette, oui, idée en l'air, qui a été récupéré par des conseillers tout à fait disciplinés, et qui l'ont lancé. Est-ce qu'inviter, de toute façon, des écologistes à débattre au salon de l'agriculture était une bonne idée, sachant que c'est le salon des agriculteurs et pas le salon des écologistes?
C'est en soi, l'idée qu'il faut réconcilier l'agriculture avec l'écologie est une bonne idée. Simplement, c'est quelle écologie? C'est certainement pas l'écologie de qu'on a vu à Sainte-Soline. Ça, c'est absurde, c'est idiot. Voilà, c'est pour ça que j'entendais un agriculteur dire, pourquoi on n'inviterait pas aussi les Black Blocs? Bah oui, évidemment, c'est absurde. Voilà. Mais en soi, ce qu'Emmanuel Macron aurait dû comprendre, c'est que, il fallait évidemment pas inviter les éco-terroristes de Sainte-Soline. Mais qu'en revanche, il aurait dû prendre sur lui-même, sans inviter des fachos verts, il aurait dû prendre sur lui-même la question écologique et en discuter de manière argumentée avec les agriculteurs, parce qu'on a besoin d'écologie. Comment rendre l'écologie compatible avec l'agriculture? C'est le vrai problème. Ça peut pas être une écologie de la décroissance, mais comment accorder l'écologie avec l'agriculture? Et ça, je pense que les agriculteurs peuvent parfaitement le comprendre. Moi, je pense que le vrai problème de l'agriculture française, pardon de le dire un peu, c'est un peu ridicule ce que je dis parce que tout le monde en parle depuis des semaines, et qui suis-je pour dire ce que je vais dire? Mais je pense que c'est le déficit d'innovation. Voilà. Je pense qu'on n'a pas, depuis 50 ans, investi suffisamment dans l'innovation agricole. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. D'abord parce que les charges sociales, comme pour toutes les entreprises, sont trop lourdes en France pour que les entreprises, et ce sont des entreprises, investissent dans l'innovation. Mais aussi parce que le monde paysan est un monde traditionnel. C'est un monde traditionnaliste. C'est pas un monde de l'innovation, a priori. Ils sont pas start-up nation. Bon. Et donc, je pense que le grand déficit par rapport à la Hollande ou à l'Allemagne, par exemple, où on voit des fermes incroyablement innovantes, le grand déficit agricole français, c'est le manque d'innovation, le manque d'investissement dans l'innovation. Certains notamment dans l'intelligence artificielle.
Luc, voilà. Ferry, certains disent que c'est aussi un manque de concentration et que nos exploitations agricoles, comparées à celles de la Hollande ou de l'Allemagne, sont un peu petites. Et que oui, ça rend d'autant plus les charges variables et les charges fixes, ça les rend d'autant plus prédommageables.
C'est tout à fait vrai. Ce qui fait que les grands groupes agricoles, je pense par exemple à l'Imagrin, par exemple, eux investissent énormément dans l'innovation. Eux, ils sont très innovants et très compétitifs. Mais en revanche, si vous voyez les petites fermes, moi j'ai connais très bien puisque c'est toute l'histoire d'une partie de ma famille et puis j'ai passé 25 ans à la campagne, donc je connais très bien ces petites fermes, elles vivent comme au Moyen-Âge.
Voilà. Attention, vous allez vous faire des ennemis. Hein.
Non, c'est la vérité, simplement. Ils le savent très bien. Mais en fait, ils privilégient ça. On aime ça aussi. Et il y a beaucoup de gens, notamment chez les écologistes, qui veulent qu'on en reste au Moyen-Âge. Voilà, parce qu'ils trouvent ça mieux. C'est sympathique, le Moyen-Âge. Et puis, ces petites fermes traditionnelles, elles sont adorables. Et donc, on aime ça. Mais en termes de compétitivité, je parle même pas avec l'Amérique latine, je parle avec l'Espagne ou avec l'Italie, avec l'Allemagne ou la Hollande. On n'est pas bon dans ce cas-là. Et c'est ça le problème. Et il faut le dire, parce que, mais il faut les aider à investir
Luc
dans l'innovation.
Ferry, si voilà. Ces petits agriculteurs vous entendent, ils vous diront, mais on s'est surendetté pour moderniser le matériel agricole, on a acheté des nouvelles machines. On est moderne dans la façon dont on a informatisé nos exploitations. Donc, ils ont le sentiment, à tort et à raison, peut-être, d'avoir fait les investissements de leur modernisation.
David, vous avez dit le mot, c'est surendetté. Quand vous êtes surendetté, vous pouvez pas investir suffisamment. Et ça, c'est le problème général de l'industrie française. C'est-à-dire qu'on est tellement écrasé, et d'ailleurs aussi des petites entreprises, on est tellement écrasé par les charges sociales à cause du déficit et de la dette française qui se rattrape sur les impôts. On est tellement endetté que les charges sociales empêchent nos entreprises, qu'elles soient agricoles ou industrielles, ou que ce soit des TPE, des PME, ça les empêche d'investir suffisamment dans l'innovation. Voilà, et ça, je pense que c'est le problème numéro un de la France, et que ça touche aussi le monde agricole. Et c'est pas du tout une critique des agriculteurs. Moi, je les défends à mort. Enfin, c'est comme tous les Français, d'ailleurs, on est à fond. Ces gens qui travaillent 70 heures par semaine et qui ont 300 balles par mois pour vivre, on est tous de leur côté. Mais simplement, ce que je dis, c'est que les mesures d'aide aujourd'hui sont des mesures qui sont pas suffisamment structurelles pour que ce soit du long terme. Voilà, et c'est ça qui m'inquiète. Pour eux, pas pour moi, évidemment. Et donc, si je dis ça, c'est pas pour être désagréable, mais parce que je pense que si on n'investit pas dans l'innovation, même par rapport à l'Espagne ou l'Italie, on sera pas performant. Voilà.
J'en viens à ce salon de l'agriculture, politisé ou pas politisé, Rassemblement national tirant les marrons du feu, syndicats complices, on a entendu des appels au Frexit, on a entendu des « on est chez nous ». Alors, évidemment, c'était pas l'essentiel de ce que racontaient les manifestants qui ont bordélisé, selon l'expression du président de la République, le début de la séquence, mais enfin tout de même, est-ce que tout cela profite au Rassemblement national?
Alors, si Marc Lambron était là, il vous dirait que c'est pas le Rassemblement national qui tire les marrons du feu. L'expression veut dire qu'on a tiré les marrons du feu pour lui. C'est ça l'expression. Mmh. On a tiré les marrons du feu pour lui, évidemment, et il récupère les marrons. Et ça, c'est absolument vrai. Regardez, la visite de Bardella, elle contraste totalement avec celle de Macron. Il passe son temps à faire des selfies, il est entouré par des gens qui l'applaudissent, etc. Maintenant, c'est ce que j'expliquais hier à mon camarade Danny Cohn-Bendit, il n'y a rien de surprenant, indépendamment des questions politiciennes, à ce que le monde paysan, qui est quand même un monde de la tradition... C'est un monde de la terre, c'est un monde catholique, avant tout, depuis toujours. C'est un monde contre-révolutionnaire au moment de la Révolution française. Le paysan, il incarne, au fond, la tradition depuis toujours. Et donc, il n'y a rien de surprenant à ce que le monde de la tradition se reconnaisse dans un parti conservateur. C'est pas, il n'y a pas de quoi en faire une histoire politicienne. Donc, c'est assez normal qu'au fond, le monde paysan se reconnaisse dans un parti, ou en tout cas dans des partis, plutôt de droite que des partis start-up nation qui parlent en anglais et qui sont dans la mondialisation libérale. Voilà, c'est pardon de le dire, mais c'est d'une évidence quand on connaît le monde paysan. C'est le monde de la tradition d'abord et avant tout. C'est un monde terrien, c'est un monde enraciné. C'est pas un monde de mondialisation, c'est pas un monde américanisé. Voilà. Donc voilà, il me semble que c'est assez logique que ce monde-là se reconnaisse au moins en partie. Je dis pas, ça vaut pas du tout pour tout le monde, mais se reconnaisse en partie dans des partis conservateurs. Et c'est pareil dans toute l'Europe. C'est pas particulier à la France.
Parlons du Rassemblement National et de cette tribune qui paraît ce matin. Elle est signée Alain Minc dans le Figaro. Oui. Alain Minc qui s'inquiète de la manière dont nos élites sont tentées de considérer l'élection de Madame Le Pen. Comme probable, comme fatal, sans nécessairement se souvenir d'un livre publié par Marc Bloch qui analysait la défaite française en 39-40. Et Alain Minc dit, voilà, les élites sont un peu molles face aux échéances qui les attendent.
Ben moi, ce qui m'inquiète, c'est que des gens qui sont en effet ces élites qui ne comprennent absolument rien à ce qui se passe, qui n'ont jamais rencontré un ouvrier ou un paysan de leur vie, soient réélus. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Hein. Encore une fois, je ne vote pas Rassemblement National, mais je comprends que les Français en aient marre de ces élites qui nous parlent de Startup Nation et qui ne connaissent, qui n'ont jamais vu un ouvrier ou un paysan de leur vie. Je veux dire, il y a un moment où ça devient insupportable aussi. Il y a un moment où, si l'extrême droite, propre, comme on l'appelle, ou en tout cas le populisme, progresse partout en Europe, c'est parce que ça fait des décennies qu'on n'a pas pris en compte ce que notre géographe préféré appelle la France périphérique. Donc il y a un moment où il faut arrêter de gommer, de zapper, d'éluder cette France d'en bas, comme disait mon ami Raffarin. Voilà. Et donc je pense que au lieu de tancer les élites qui ne s'inquiètent pas trop d'une victoire probable ou possible, en tout cas de Marine Le Pen, on ferait mieux de prendre en compte les raisons pour lesquelles Marine Le Pen va être élue ou peut être élue. C'est ça le fond du problème. C'est qu'au fond, ces gens-là ne s'en sont jamais occupés, n'ont jamais vu la France périphérique. Ils ne la connaissent pas d'ailleurs. Et encore une fois, ils n'ont jamais vu un ouvrier ou un paysan de leur vie. Ils s'en foutent, ce n'est pas leur monde.
Et voilà. Donc,
il y a un moment où la France d'en bas se révolte, et c'est plutôt ça qu'Alain Minc ferait mieux de comprendre, plutôt que de dire ah ben, c'est pas bien, tout ça, la démission d'éclair, etc. On a entendu ça mais 10 000 fois. Voilà. Et donc, si Marine Le Pen est élue, c'est de la faute de gens comme ces élites qui, encore une fois, méprisent la France périphérique depuis toujours. Donc, moi, je souhaite le retour d'un grand gaulliste social-démocrate. Bon, ben, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est ça le fond du problème. Il n'y en a ni à gauche. Voilà. Les Jacques Julliard, les Rocard n'existent plus à gauche. Voilà. Et les grands gaullistes n'existent plus
depuis
à
longtemps.
Droite. Depuis un moment.
Depuis
voilà.
Très longtemps.
Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, si les élites ont zappé la France périphérique pendant des décennies, c'est pas étonnant qu'elles finissent par voter pour un parti conservateur.
Ce sera le mot de la fin de Luc Ferry. Luc, on va se quitter avec Bach. On va écouter
ça, c'est une bonne idée.
La cantate des paysans, figurez-vous. Il y a une cantate de Bach qui s'appelle la cantate des paysans. Allez, place à Bach et à la semaine prochaine, Luc. Thank you.